Nous avons été du côté des bibliothèques, nous sommes passés du côté de l'éducation nationale. Il nous semblait quand même important qu'il puisse y avoir un dialogue ou une tentative de dialogue entre éducation nationale et culture et bibliothèque. Nous avons demandé pour cela à Emmanuel Bégou d'accepter, de ce dont je le remercie d'ailleurs, d'animer une table ronde pour mettre en place ce dialogue. Emmanuel Bégou, vous êtes chargé de mission médiathèque et patrimoine et responsable du système d'information de l'agence Languedoc-Roussillon Livre et Lecture. On sait le rôle important qu'ont les agences de coopération dans le dispositif. Et je voudrais quand même signaler que vous menez un projet tout à fait intéressant, puisque vous avez mis en place un groupe de travail réunissant Éducation nationale, CRDP et l'espace numérique de travail de la région Languedoc-Roussillon, qui vise à valoriser les ressources numériques patrimoniales des bibliothèques et des archives auprès des professeurs et élèves de collège et lycée en corrélation avec les programmes. Donc un bel exemple de coopération qui se met en place avec certaines difficultés sans doute, mais peut-être que vous aurez le temps de nous en dire quelques mots. Mais je vais vous laisser le soin de présenter nos différents intervenants que je remercie pour ma part vivement d'avoir accepté de venir participer à cette table ronde.
Merci, bonjour à tous. Voilà, quels objectifs, moyens, actions, évaluations. À travers cette table ronde, nous allons faire un premier temps d'arrêt dans cette journée, donc j'espère que ça suscitera des discussions à bâton rompu parmi nos intervenants et surtout aussi parmi la salle. Pour cette table ronde, donc, nous avons Christine Péclard, qui est conservateur des bibliothèques, responsable de la bibliothèque Marguerite Duras à Paris, et qui a une solide expérience dans le domaine de la jeunesse. Ensuite, nous avons Ludovic Pétoin, qui est principal adjoint au collège Gustave Courbet à Romainville, qui est enseignant spécialisé, maître formateur et principal adjoint. Et ensuite, Jean-Pierre Véran, qui est professeur agrégé de lettres, entre autres, enseignant à l'université Montpellier 2, et qui a été inspecteur d'académie, vice-président de jury. Voilà. Donc on va faire un petit tour parmi nos intervenants pour qu'ils se présentent et peut-être aller dans le vif du sujet aussi et aborder, au vu de leur expérience et peut-être d'une action significative qu'ils mènent dans le domaine la relation éducation nationale bibliothèque est-elle naturelle, l'a-t-elle été, l'est-elle devenue, ne l'est-elle pas? Voilà, donc j'ai commencé à passer la parole à Christine Péclard pour qu'elle nous donne son point de vue de bibliothécaire.
Bonjour, donc merci de m'avoir invitée. Je ne sais pas si je dois remercier parce que je me sens très mal de parler devant un tel auditoire où je reconnais beaucoup de gens. Donc, on l'a dit ce matin, puis Caroline nous a fait un historique. L'accueil des classes est une véritable institution depuis les débuts de l'heure joyeuse en 1924, mais néanmoins, ces dernières années, elles ont été quand même remises en question et remises en cause par un certain nombre de professionnels dans leur forme, mais aussi dans leur fond. Et ça, je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette remise en cause ce matin. J'ai un petit peu envie de mettre les pieds dans le plat quand même, en rappelant la position certainement provocatrice de notre collègue Tony Dimasio, bibliothécaire à Bagnolet, qui explicite, lui, son refus de collaborer avec l'école dans son article. Et si l'on en finissait avec les accueils de classe, quelquefois, c'est bien de poser des questions un petit peu provocatrices. Cet article est paru dans le numéro 248 de la Revue des livres pour enfants. Et effectivement, sa crainte est de voir la bibliothèque municipale assimilée à l'école et courant ainsi le risque d'être rejetée par les jeunes en difficulté scolaire. C'est une crainte qui nous anime quand même tous, puisque on sait que les bibliothèques sont désertées par les adolescents. Et ce risque est confirmé par certaines études sociologiques, en particulier à l'adolescence, donc, comme le signale Claude Poisneau, puisque la bibliothèque est d'inspiration parentale et d'inspiration scolaire également. Il est donc difficile pour les adolescents de s'autonomiser par rapport à un lieu qui émane de ce dont il convient de se détacher. Ce qui expliquerait que les adolescents boudent les bibliothèques alors qu'on a cherché à les retenir pendant de si longues années. Donc, effectivement, là, je pense que j'ai envie de pointer un petit peu tout le travail qu'on peut faire auprès de ces adolescents. On a très longuement parlé ce matin de tous les accueils de classe qui concernent essentiellement les accueils de maternelle et de primaire. Donc, effectivement, je pense que là, les choses se mettent en place. On a parlé d'abattage, je suis tout à fait d'accord avec Delphine à ce sujet. Il faut vraiment renoncer à ces défilés permanents d'écoles qui viennent gonfler artificiellement les statistiques d'usagers et de prêts, parce qu'il faut arrêter avec ça. Peut-être que ça nous permet d'avoir de la visibilité, de la crédibilité auprès de nos élus, mais il faut peut-être s'interroger sur les véritables objectifs, les véritables mission des bibliothèques. Et donc, plutôt axer tout notre travail sur de véritables projets, comme le signalait Claudine, excuse-moi. Oui, pardon, monsieur. vraiment travailler en étroite concertation, bâtir ensemble des projets avec l'éducation nationale. Ça ne suffit pas de faire visiter les bibliothèques. À la limite, je dirais même que ça ne sert à rien. Donc, vraiment bâtir des projets avec les enseignants, avec les bibliothécaires, que les bibliothécaires s'investissent un petit peu, parce que prêter des livres, pour moi, ce n'est pas du tout un investissement. Donc là, effectivement, en termes d'abattage, hein, moi, je peux donner des chiffres aussi à la bibliothèque Marie Duras. On a accueilli, ce qui est dérisoire par rapport à Reims, 107 classes en un an, dont 3 200 élèves de maternelle et de primaire. Mais c'est pas pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui nous a permis de rentrer en relation avec des collèges et des lycées, en particulier dans un arrondissement, le 20e arrondissement, qui est où la population est très mélangée, qui reste quand même assez populaire, même si c'est un arrondissement qui est en train de se boboiser, comme on dit, du côté en particulier de la médiathèque, parce qu'à partir de la construction de la médiathèque qui a ouvert en juin 2010, on sent qu'il y a une transformation du quartier. Et les jeunes de l'îlot Saint-Blaise, qui est un îlot particulièrement dense en termes de population et particulièrement touché par le chômage et les difficultés économiques de tous ordres, les jeunes de ce qu'on appelle l'îlot Saint-Blaise, qui est séparé de la rue de Bagnolet par une espèce de frontière, sinon naturelle, en tout cas symbolique, qui est la rue Vitruve. Donc les jeunes de l'îlot Saint-Blaise ne traversent pas cette rue pour fréquenter la médiathèque Marguerite Duras, 4200 m², un très bel outil. On peut parler de la bibliothèque troisième lieu, etc. Mais ça prouve que ça ne suffit pas d'ouvrir de très belles médiathèques pour que les gens aient leurs immeubles au pied des tours pour ouvrir cette magnifique médiathèque pour les riches. Donc ce qu'ils ont entendu et compris, c'est que cette bibliothèque n'était pas pour eux. Donc ils venaient foutre le bazar, en gros, dans cette bibliothèque, en n'utilisant pas du tout toutes les ressources qui étaient mises à leur disposition. 50 postes multimédia, des postes de consultation, des DVD pour lesquels nous avons acquis les droits de prêt, je signale, par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Un outil extrêmement riche, mais que ces jeunes ne s'appropriaient pas. Donc là, il a fallu qu'on mette qu'on calme un petit peu le jeu, parce que là, on était parti dans une spirale assez dangereuse de provocation. Ça a commencé à dégénérer un petit peu. Donc on a réussi d'une part à obtenir quand même un vigile, ce qui était la moindre des choses dans un établissement de cette taille, mais surtout nous avons entrepris tout un travail auprès des classes, en particulier des classes de 4e, qui étaient visiblement, qui nous envoyaient leurs meilleurs éléments, on va dire. C'est les quatre classes de quatrième qui posaient finalement problème. Et quand on a réussi à les recevoir systématiquement, depuis le début de l'année, on n'arrêtait pas de recevoir des classes. Mais justement, le proviseur de ce collège ne se sentait pas du tout concerné par la bibliothèque. Et nous avons pu rentrer dans l'école par l'intermédiaire d'un professeur documentaliste que je connaissais de longue date, puisqu'on avait, à la suite de journées d'études organisées par M. Véran et Jean-Claude Hutard à la ville de Paris, on avait créé un comité de lecture interprofessionnel mélangeant des documentalistes, des bibliothécaires et des professeurs de français, et qu'on avait pu donc créer des liens autour de la littérature de jeunesse pour les ados et créer des liens assez forts. Et c'est vrai que parfois, on posait la question tout à l'heure, quels sont les interlocuteurs, quels sont les relais dans le collège ? Eh bien, les relais, ça peut être tout à fait les documentalistes, les professeurs documentalistes, et qui ont besoin donc de s'appuyer sur les bibliothécaires.
Voilà, ben, merci, merci pour tous ces éléments. En effet, il semble qu'il y ait entre les bibliothèques et l'éducation nationale un problème de cloison, et que si on en est à dire il faut que j'emploie des moyens détournés, des connaissances pour pouvoir pénétrer l'éducation, voilà, c'est des questions qu'il faut en effet se poser. Je vais passer la parole à Ludovic Pétoin, en tant que principal adjoint de collège. Quel est son point de vue là, sur cette relation naturelle ? Les ponts sont-ils créés ? Ils sont-ils formalisés ? On voit un peu dans l'intervention aussi de Christine Péclard que cette relation, elle est somme toute informelle.
Alors effectivement, la question, c'est les liens sont-ils formalisés ? Si on s'en remet juste aux connaissances, donc moi j'ai eu dans mon collège aussi le professeur documentaliste qui connaissait le directeur de la médiathèque, donc les ponts se sont faits à ce moment-là, mais malheureusement le directeur de la médiathèque est parti, donc les ponts se sont rompus. Donc si on reste sur ce domaine-là, on n'arrivera pas à pérenniser les actions et on n'arrivera pas à créer de véritables liens. Donc on l'a dit, je pense, ce matin, ça a été rappelé par Nicolas Monteil, il faut absolument que le projet soit indiqué dans le projet d'établissement du collège, que ce lien soit indiqué dans le projet d'établissement du collège, c'est la base. Il a signalé qu'il fallait que ce projet soit mis en avant, en tout cas que le lien avec la médiathèque soit mis en avant, et c'est, en tout cas, de mon point de vue, fondamental. Il y a un autre aspect fondamental, on l'a souligné ce matin, le collège dépend du département. Donc c'est un problème, puisque la médiathèque a plus un lien avec la ville. Il faut absolument aussi recréer un lien entre le collège, la ville et la médiathèque. Nous, ça fonctionne, du fait que le directeur de la médiathèque soit parti, il a bien fallu, et on voulait poursuivre les actions, parce qu'il faut aussi que les enseignants soient partie prenante. Du coup, là, c'est les enseignants qui ont poussé l'action. On parlait d'enseignants motivés dans le document de Nicolas Monteil tout à l'heure. Donc il faut absolument que ces enseignants soient motivés. Mais au-delà de ça, parce que les enseignants aussi vont partir un jour, particulièrement moi j'enseigne dans le 80, enfin j'enseignais et je dirige maintenant le 93, le turnover des personnels dans le 93 est en gros de 4 années, quoi, 3 à 4 années. Et encore, il y a une certaine stabilité dans le collège. Mais s'il n'y a pas de plan mis sur le projet d'établissement et un lien avec la ville fort par l'intermédiaire du directeur des affaires culturelles, je pense que là, on va droit dans le mur. Donc, pour notre part, on a mis en place ces deux liens. Alors, anecdote subtile, c'est que et le directeur de la médiathèque et le directeur des affaires culturelles de la ville sont partis. Donc, c'est un petit peu complexe. En plus, ils n'ont pas été remplacés. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais il y a au moins des bases qui sont posées qui nous permettent de suivre une relation assez soutenue avec la médiathèque. Je reviendrai sur ce qui a été dit aussi ce matin. J'étais désolé de voir, mais en même temps je ne peux que m'indigner devant ça, de voir qu'il y avait un problème de liaison entre la bibliothèque ou la médiathèque et le second degré. Moi, je suis au départ du premier degré, donc j'ai vécu, j'ai travaillé en maternelle pendant le premier degré et après j'étais enseignant spécialisé dans le second degré. Donc cette liaison qui ne se fait pas, je la maîtrise totalement. Alors, de mon point de vue, c'est peut-être aussi parce que l'offre que l'on fait au premier degré est tout à fait louable, même si on peut revenir dessus, hein, s'il s'agit d'une offre quantitative, de présentation, de visite de bibliothèque, bon, ça ne sert à rien, ça ne sert pas à rien, à mon avis, ça doit quand même exister. Par contre, si on veut calquer cette offre sur le second degré, là, ça ne passe pas du tout. Donc, de mon point de vue, encore une fois, ce qui ne passe pas, c'est les présentations de livres. Souvent, on essaye d'associer collège et bibliothèque en emmenant les élèves voir de collège, voir la médiathèque ou la bibliothèque. Ils l'ont vu 3 fois, 4 fois depuis qu'ils sont en primaire, aucun intérêt. En présentant des livres, en faisant venir des auteurs, en présentant des livres, soit à la médiathèque, soit au collège. Aucun intérêt non plus. On perd du temps, mais vraiment aucun intérêt. Le résultat, c'est difficile hein, peut-être à entendre, mais le résultat pour nous a été limite négatif. Hein, parce que ça c'est bon, y a eu des incidents après dans la médiathèque, comme ça peut être souligné tout à l'heure. Par contre, ce qu'on a dit ce matin, et ce qui est difficile aussi à mettre en œuvre, c'est de construire de véritables projets. C'est difficile à mettre en œuvre. On a parlé de turnover de personnel. Et puis on a parlé aussi, Nicolas Montaille rappelait, toute cette batterie qui existe. Hein. Moi, je viens de l'Académie de Créteil, mais je me retrouve totalement dans... ça ne s'appelle pas projet PAG, projet d'action globalisée. Bon, on a les classes à PAC, les ateliers artistiques et culturels. On a exactement les mêmes batteries. Le problème, c'est que ce type d'action vient un petit peu se plaquer sur ce qui est fait, et les enseignants deviennent un peu consommateurs de ces actions. Il n'y a pas véritablement d'investissement personnel, si, mais d'investissement personnel au niveau du collège. Et c'est ce qui pose problème. Nous, on essaye de mettre en place, encore une fois, parce que notre professeur documentaliste, nos professeurs documentalistes et notre directeur de la médiathèque voulaient créer ce véritable lien. Ils ont réussi à faire ce partenariat, mais c'est quelque chose de très personnel. Ça n'a pas duré. Hein, ça a pas duré. On essaye, en impliquant encore une fois les enseignants dans le projet d'établissement, enfin, quand je dis les enseignants, c'est toute la communauté éducative, par le projet d'établissement, à poursuivre ce lien. Mais ce n'est pas d'évidence. Et la solution, alors moi je ne suis pas du tout là pour apporter des solutions, mais uniquement un témoignage, mais encore une fois, d'après notre expérience, en tout cas dans le collège, la solution est dans la construction de ces véritables projets entre des personnes au niveau local. Au niveau local, j'entends au niveau de la ville. Et même si, on est bien d'accord, le collège dépend du département. Et là, on va retomber donc dans des politiques publiques qui ont été évoquées par M. Séné. Et sans cette véritable volonté politique au niveau local, on va passer certainement à côté de quelque chose. À côté de quelque chose, bah c'est quand même quelque chose d'important pour nous, puisque le collège est quand même le dernier maillon où on réunit tous les enfants hein, d'une cité. Parce que après au lycée, bon, bah, après c'est soit 16 ans, ils peuvent arrêter l'école, ou soit ils se dispersent dans différents lieux. Donc la formation du citoyen, elle se situe vraiment au collège. Enfin, elle peut être encore très prégnante et très importante au collège. Donc passer à côté de ça par l'ouverture culturelle, par le développement de l'esprit critique et donc par l'utilisation, ma collègue alors parlait d'outils, de magnifiques outils que sont les médiathèques, passer à côté de cette utilisation-là, pardon, c'est un véritable manque, en tout cas, pour les collèges d'une part et, in fine, pour les élèves.
En effet, c'est vrai que le terme de bibliothèque, troisième lieu, est très en vogue en ce moment, mais il ne suffit pas d'avoir un très bel outil. Je pense qu'il faut gagner cette place-là, et en particulier auprès du public jeune et de l'éducation nationale. On se faisait la réflexion tout à l'heure avec Jean-Pierre Véran qu'au niveau du tissage territorial, où il y a des écoles, il y a des bibliothèques. Et pourquoi ces ponts ne sont pas plus forts? On entend aussi le terme de tisser des liens entre école et bibliothèque. Pourquoi aujourd'hui ces liens ne sont pas tissés, ou s'ils sont tissés, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas pérennes?
Oui, alors j'ai envie de m'appuyer sur des choses qui ont été dites ce matin pour essayer de répondre à la question que vous posez, aussi bien dans l'intervention de Caroline Rive que dans celle de M. Senet, en pointant en effet cette sorte de cloisonnement qui existe entre la lecture publique et l'école, avec cette différence essentielle quand même d'une relation qui quantitativement et chiffrable existe et qui n'est pas déshonorante, qui est la relation de la lecture publique au premier degré et qui est en revanche extrêmement plus faible et d'une certaine façon déshonorante par rapport aux objectifs républicains, cette relation avec les établissements de second degré. Je crois que Il y a deux explications. Il y en a une première. Alors, il y a de multiples explications. Caroline Rive en a évoqué plusieurs. Je n'y reviens pas. Mais il y en a une que je voudrais ajouter. C'est sans doute la différence des ordres. Notre enseignement scolaire français, il a été constitué historiquement sur des ordres. Il y a l'ordre du primaire, puis il y a l'ordre du second degré. Et pour les enfants du primaire, qui étaient les enfants des classes populaires, effectivement, la mission de la bibliothèque et le regard de l'école sur la mission de la bibliothèque était un regard bienveillant parce qu'il s'agissait pour les instituteurs de l'école de premier degré d'assurer l'acculturation des milieux populaires. Et la bibliothèque était forcément, je dirais, naturellement, en quelque sorte, un allié dans cette acculturation citoyenne des milieux populaires. En revanche, le second degré, lui, c'était les enfants de notables. Et les enfants de notables, ils n'avaient pas besoin de la bibliothèque, parce que la bibliothèque, ils l'avaient chez eux. Premier élément historique d'explication. Le deuxième élément historique d'explication, c'est que, et ça a été évoqué par Caroline Rive, mais je vais y revenir, c'est que non seulement il y a un enseignant unique, globalement, dans le premier degré pour une classe, et dispersion des enseignants dès le collège, mais cette dispersion, c'est aussi dans le second degré du cloisonnement. Il faut savoir que l'enseignant qui est dans sa classe, il peut aller tous les jours dans sa classe, il peut faire son métier d'enseignant sans jamais mettre les pieds au centre de documentation et d'information. Il faut dire que le conseiller principal d'éducation qui accueille des élèves dans des salles dites de permanence, le joli mot, peut ne pas fréquenter non plus le CDI. Et on a très souvent dans les établissements, on a eu, je me souviens des batailles dans certains établissements chics de l'Académie de Paris au début de ce siècle, où effectivement les CPE et les documentalistes se renvoyaient les élèves comme une balle de ping-pong. Les élèves étant exclus du CDI, exclus de la permanence, enfin bon, vous voyez le genre de choses. Donc ça aussi c'est important parce que ça veut dire qu'en effet il est très difficile d'avoir une démarche collective d'équipe et que cette démarche collective donc s'engage dans un projet de coéducation, de co-formation avec la lecture publique. Alors maintenant un deuxième enjeu, c'est effectivement l'enjeu du territoire hein, qui a été évoqué notamment par M. Senet dans son intervention. C'est vrai qu'il est frappant de constater que alors à Paris c'est manifeste, vous ne pouvez pas aller dans un établissement scolaire à pied sans passer à proximité devant un lieu de lecture publique. Donc et pourtant, c'est vrai que ces relations sont souvent ténues, souvent fruits effectivement de relations interpersonnelles, plus que de propos politiques. Alors moi, il me semble que les enjeux, il y a plusieurs enjeux dans la nécessité de retravailler ces relations et de les construire dans une dynamique vraiment de projet politique, c'est la question de la socialisation. L'école est un lieu de socialisation, la bibliothèque est un lieu de socialisation, et un des enjeux de la formation des jeunes, c'est effectivement les compétences sociales et civiques, c'est l'autonomie et l'initiative, et ces compétences sociales et civiques, et cette autonomie et cette initiative, qui font partie du socle commun de connaissances et de compétences que tout élève doit maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire, ces compétences, elles se cultivent, elles se travaillent aussi bien dans la bibliothèque, la médiathèque, que dans l'établissement scolaire. Et donc il y a là quelque chose de fort. On parlait de l'initiative, vous évoquiez effectivement ces enfants-là de la rue Vitruve qui viennent à la bibliothèque, en fait, pour non pas pour s'en servir, mais pour y mettre le bazar. On est bien, justement, dans la nécessité de considérer que quand on est bibliothécaire, comme lorsqu'on est enseignant, on a une responsabilité de socialisation. Alors il faut l'accepter, effectivement. On n'est pas les gardiens du livre, on n'est pas les simples serviteurs du savoir. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un enjeu fondamental. Autre enjeu partagé, parce que j'essaie de voir tous les terrains qu'on a à labourer ensemble. Autre enjeu partagé, c'est celui de la culture de l'information. C'est un objectif ancien hein, de la lecture publique, effectivement, de faire en sorte que les lecteurs acquièrent cette culture de l'information, aujourd'hui indispensable. Et cette culture de l'information, là aussi, elle doit se construire de façon cohérente, continue, dans la continuité, hein, la continuité horizontale entre l'école, le chez-soi et la médiathèque. Troisième enjeu qui est directement, qui est un facteur, particulièrement stimulant pour se poser la question de la culture de l'information, c'est le régime dans lequel nous sommes, qui est le régime de l'après-livre. Hein, François Bon, son dernier ouvrage paru, Après le livre, d'ailleurs c'est un livre qu'il a publié pour dire que nous sommes après le livre, mais c'est intéressant, il est un peu prophète. Donc, effectivement, la bibliothèque, l'identité de la bibliothèque strictement définie par le livre, c'est plus possible. Donc là aussi, l'école se trouve confrontée à la même situation. Et je posais récemment à des documentalistes, des professeurs documentalistes, cette question provocatrice, mais c'était pour faire réfléchir et pour lancer le débat. C'était: est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer des CDI sans livre, sans papier? Des CDI exclusivement numériques. La deuxième question, encore plus provocatrice que l'autre, c'était: est-ce qu'on peut imaginer des CDI sans papier et sans professeur documentaliste? Puisque finalement, il suffit d'un clic pour trouver la bonne réponse à la question qu'on se pose. Donc voyez, tout ça, je pense qu'avec le développement de l'Internet, avec le développement de tous les outils nomades dont nous disposons tous et dont les adolescents disposent également, assez fortement, ce sont des questions qui se posent. On ne peut pas considérer qu'on a une autorité légitime. On a perdu cette légitimité de l'autorité, cette espèce de caractère sacré du livre qui renferme les savoirs, de la bibliothèque qui est le temple du savoir, comme l'école, avec ses serviteurs qui sont les enseignants. Donc voilà, cet enjeu me paraît très important et c'est un combat commun. Un combat commun, alors comment le mener? Par-delà les initiatives interindividuelles qui sont effectivement précieuses et constructives, je crois qu'il faut vraiment aller vers davantage de mutualisation dans les dispositifs de formation, les temps de formation communs, pour qu'en effet on se construise à partir de ces problèmes communs que j'ai évoqués des réponses complémentaires, qu'on ne parte pas en ordre dispersé, qu'on se connaisse mieux, que en effet on développe toutes sortes d'actions qui sont des actions non pas à objectif essentiellement quantitatif, mais des actions à objectif qualitatif, c'est-à-dire des actions qui engagent une démarche de projet. Des exemples nous ont été donnés à propos du premier degré par Madame la directrice de cette médiathèque qui évoquait ce prix des écoliers qui effectivement engage une démarche au long cours. À ce propos, je me permets de faire une réflexion tout haut à propos de la présentation qui nous a été faite par Madame la directrice, c'est que les livres sont choisis par les bibliothécaires. J'interroge effectivement cette donnée. C'est intéressant effectivement de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre procédure qui permettrait en amont d'associer les professeurs à une dynamique de projet? Voilà. Non mais, sans doute. Mais je dis ce que j'ai entendu, c'est tout. Ça m'a...
En effet, vous avez anticipé un petit peu sur la suite. On reviendra peut-être sur les aspects du numérique. Et là, j'apporterai un peu une réflexion qui est en relation avec le projet que la structure LR2L a en Languedoc-Roussillon avec les ENT et les enjeux qu'il y a autour de ça. Vous êtes tous les trois formateurs. Moi, j'avais envie de vous poser la question dans vos sessions de formation. Quelle part vous faites de la coopération et d'autre part en tant que dans le monde des bibliothèques ou dans le monde de l'éducation nationale, quelle est l'image du bibliothécaire ou quelle est l'image de l'enseignant? Voilà, je passe la parole à Christine Pépin.
Là, je ne sais pas trop comment répondre à ça. Moi, je vais revenir à ce fameux comité de lecture interprofessionnelle et surtout aux deux journées d'études qui avaient mené à la constitution de ce comité. Ça venait justement de l'interrogation des professeurs documentalistes qui se disaient, nous, on n'a pas la connaissance de la production que les bibliothécaires ont, parce qu'après tout, c'est notre métier de suivre la production et quand même de sélectionner dans cette production pléthorique le moins mauvais, on va dire, sinon le meilleur. Donc, c'est vrai que là, les bibliothécaires, les documentalistes avaient besoin un petit peu de... Je ne dirais pas de l'expertise des bibliothécaires, mais de leur connaissance de l'ensemble de la production. Et ils souhaitaient rejoindre nos comités de lecture interprofessionnels, nos comités de lecture professionnels de bibliothécaires. On n'a pas réussi à les intégrer dans nos comités. Pourquoi ? Pour des questions de temps de travail, tout simplement, d'horaire. Parce que les bibliothécaires documentalistes sont disponibles à partir de 4h30, alors que les bibliothécaires municipales sont complètement sur le terrain à partir de la... Donc voilà, on a un shop sur des choses aussi bêtes que ça. Mais néanmoins, on a réussi à construire ce comité de lecture interprofessionnel qui permettait de croiser les regards sur la production de livres pour ados. Et je ne peux que déplorer la suppression de Livres au trésor et du remarquable travail qui a été fait. Parce que vraiment, là, s'il y avait un comité de lecture interprofessionnel exemplaire, c'était bien celui-là. Et ils avaient quand même réussi, eux, à dépasser ces problèmes d'horaire, etc. Mais là encore, toujours un problème de personnes. Il suffit que deux personnes, du côté de l'éducation nationale et du côté des bibliothèques, hein. En l'occurrence, lorsqu'on a supprimé la mission jeunesse, il n'y avait plus d'interlocuteurs du côté de la ville de Paris, des bibliothèques de la ville de Paris. Et voilà, je crois qu'il continue, hein, le comité, mais seulement entre vous, c'est-à-dire entre profs de français et professeurs documentalistes. Et les bibliothécaires ne sont plus dans ce jeu.
Peut-être je vais passer la parole à Ludovic, puisque ça... voilà, sur ces questions quel besoin attendez-vous des bibliothèques et recentrer aussi peut-être un peu sur la formation, comment on peut à la base dans la formation pouvoir opérer ce rapprochement d'abord chez les professionnels.
Dans la formation, je pense que ça a été dit par M. Véran, il faut qu'effectivement les gens se connaissent et prennent l'habitude dès le départ, donc dès la formation, de travailler ensemble. Après, on va se buter toujours aux problèmes logistiques, d'heures, voilà, on va se rencontrer quand ? Ah oui, mais moi là je travaille pas, ah oui, mais moi au contraire, c'est le moment où je travaille. Donc je vais revenir toujours sur la même problématique. Tant qu'il n'y aura pas une volonté d'instituer au niveau national un temps de rencontre, mais bon là ça implique plusieurs éléments, notamment sur le temps de travail de chacun, cette relation ne sera qu'éphémère ou sera due, comme ça vient encore d'être dit, à la volonté de certaines personnes de travailler ensemble sur le temps de midi et deux, après 18 heures. Et là, on ne va pas trop s'en sortir si on veut pérenniser les actions. Sur les temps de... Pour revenir sur la formation, moi, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que je peux répondre là-dessus, hormis l'avis que je viens de donner. Parce que existe-t-il un temps dans les IUFM pour regrouper les professeurs de documentalistes, inviter les bibliothécaires et les professeurs, en tout cas futurs professeurs de lettres? Je ne sais pas, peut-être que c'est là que se trouve l'enjeu pour créer cette nouvelle culture qui serait la base d'un partenariat évident et naturel par la suite, quoi.
Merci. Sur la question de la formation, je vais peut-être passer la parole aussi.
Bon, je vais parler d'où je parle. C'est-à-dire que je suis formateur associé à l'École supérieure d'éducation nationale, donc j'interviens dans la formation des inspecteurs d'académie, mes collègues. Et à destination justement des inspecteurs d'académie qui sont plus particulièrement en charge de la question documentaire, qui sont ce qu'on appelle les inspecteurs d'académie, établissements et vie scolaire. Et dans leur formation, il y a une session, alors une formation qui est à la fois...